Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Les banderoles à peine repliées, direction le ministère. Journée de mobilisation historique dans l'éducation nationale, disent les syndicats. Le Premier ministre les reçoit en ce moment même. Et pendant ce temps, la commission qui devait trouver un compromis sur le pass vaccinal déraille à cause d'un tweet. Nouveau psychodrame au Parlement. Dans l'actualité encore, une détention totalement arbitraire. Emmanuel Macron s'indigne de la réincarcération de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka. Garde à vue levée pour l'homme entendu depuis hier dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Le RSA rate sa cible, tacle la Cour des comptes et puis le début de l'Euro de handball. France-Croatie, ce soir en Hongrie, nous serons sur place. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on vide les entrepôts. Après la loi sur l'interdiction de jeter les produits alimentaires, depuis le 1er janvier, le non-alimentaire ne doit pas être détruit. Non plus, on parle de vêtements, de chaussures, de produits d'hygiène, de produits électriques, de cartouches d'encre et de mille autres choses. Qui rechigne? Quelles sont les entreprises vertueuses? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? C'est notre affaire à tous et c'est le téléphone sonne. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est donc le Premier ministre en personne qui parle en ce moment au syndicat de l'éducation nationale. Jean Castex s'est déplacé au ministère de l'éducation nationale pour mener les discussions avec Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran, positif au Covid et donc en visioconférence. Sonia Princey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez dans le cortège parisien cet après-midi et vous avez filé juste après au ministère. On a rarement vu aussi rapide comme réponse du gouvernement à une mobilisation.
Oui, ce qui s'est passé, c'est que l'intersyndicale qui avait appelé au mouvement de grève a demandé à la mi-journée à être reçue à Matignon, estimant que c'était Jean Castex qui avait annoncé les dernières mesures et que c'était donc à lui de répondre à la colère et à l'exaspération qui s'est exprimée aujourd'hui. À la fin de la manifestation, les syndicats ont reçu un message de Matignon confirmant le rendez-vous, mais le Premier ministre s'est déplacé au ministère de l'Éducation nationale, ce qui est une façon de montrer qu'il prend bien la mesure de cette mobilisation exceptionnelle, sans désavouer son ministre, qui est très critiqué pour sa gestion de la crise. Les syndicats attendent des réponses ce soir, des réponses très concrètes d'abord sur les masques, les tests, les moyens de remplacement pour pallier les absences des professeurs touchés par le Covid. Le principal syndicat du primaire voudrait des tests salivaires une fois par semaine dans les écoles. On est prêt à travailler avec le ministère, mais il faut qu'ils nous entendent, disent les responsables syndicaux. Ils réclament aussi des mesures à plus long terme pour l'après-crise. La réunion pourrait déboucher sur un calendrier de sortie de crise avec des mesures pour chaque étape de l'évolution de l'épidémie, selon des conseillers du gouvernement, pour répondre notamment aux reproches sur le manque d'anticipation.
Sonia Princey avec Marc Garvenès en direct du ministère de l'Éducation nationale. Merci à tous les deux. À 87 jours de la présidentielle, la colère du monde de l'éducation est écoutée avec attention. Jean Castex reprend donc la main. Et voici quasiment Jean-Michel Blanquer à l'isolement politique. Un enjeu de taille pour la majorité et pour les oppositions en campagne. Les candidats de gauche étaient d'ailleurs dans les cortèges aujourd'hui. Yannick Jadot à Grenoble et quasiment tous les autres à Paris en ordre dispersé. Laurence Perron.
Anne Hidalgo est arrivée la première. Elle s'engouffre dans le carré de tête. Elle a à peine le temps de répondre à trois questions, notamment sur la responsabilité de Jean-Michel Blanquer.
Énorme, tout comme le président de la République. Non, je n'appelle pas sa démission. J'appelle un changement profond dans la politique du pays et l'élection présidentielle est là pour le faire. Merci, merci.
Puis on entend des huées. Traître, dégage, c'est de votre faute si on en est là. Un peu plus bas sur le boulevard, Jean-Luc Mélenchon boit du petit lait.
Pour Anne Hidalgo, ça a été beaucoup plus compliqué. Là, vous êtes bien accueillie.
Elle a été un peu bousculée, madame Hidalgo.
Elle a rien fait, elle si.
Puis il poursuit.
Ça, c'est le moment important. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à mettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal, pas mal.
Il faut qu'il parte.
Alors, bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein.
Donc, faut surtout pas qu'il parte.
Il hein. Faut laisser leur chance au bon à rien.
Les rires, ce sont ceux des députés venus en nombre. Le chef du Parti communiste, Fabien Roussel, lui, fait une courte apparition en solo.
Je suis très heureux que nous soyons aujourd'hui rassemblés et présents dans cette manifestation pour exprimer au moins notre unité sur la question de l'éducation nationale.
Tout comme Christiane Taubira.
La façon dont le ministère de l'Éducation nationale, 2 ans après la pandémie, traite le corps enseignant est juste inacceptable.
Un check très remarqué de la future candidate avec l'écologiste Sandrine Rousseau. Le seul moment d'unité de cette gauche qui, même pour les grandes causes communes, refusent de marcher ensemble.
Et les classes se sont vidées aujourd'hui donc pour remplir les rues traditionnelles. Bataille de chiffres entre ceux des syndicats et ceux du ministère. Dans le premier degré, par exemple, 38,5% de grévistes contre 75% selon SNUPP. Dans le second secondaire. Le ministère recense 23% d'enseignants grévistes contre 62% pour le SNES-FSU. Il y avait environ un millier de personnes à Orléans, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Rennes. Mobilisation suivie aussi par le personnel des écoles, de la cantine, du ménage et les infirmières scolaires, comme Hélène Fouque, secrétaire du SNES-UNSA pour l'Académie de Nice.
Je ne fais que du contact tracing. Je me suis vue refuser de me déplacer dans l'établissement pour une élève qui faisait un malaise parce que je n'arrivais pas à gérer les cas positifs pour lesquels je devais faire le tracing. Et je me suis contentée de dire, cette élève fait un malaise, eh bien si ça s'aggrave, appelez le 15. Si elle va mieux, dites-lui qu'elle descende à l'infirmerie avec vous. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc tu t'occupes même plus des urgences? Je mets cet élève en danger, je me mets en danger professionnellement, c'est pas possible. On n'est pas là pour faire du tracing qui sert finalement qu'à nous faire des stats et des chiffres, on est là pour s'occuper de nos élèves. Et là, cette exigence-là qui a toujours été la nôtre, elle passe complètement à la trappe aujourd'hui.
Un témoignage recueilli par Camille Huppe-Noir de France Bleu Azur. Quelles solutions trouver pour l'école pour éviter ces tests à répétition, les allers-retours classe maison, les cours en pointillés? Pour simplifier un peu les choses, la ville de Taverny dans le Val-d'Oise a installé un centre de dépistage salivaire pour les moins de 11 ans, ouvert 4 matins par semaine pour tous les enfants cas contact que l'école envoie se faire tester. Reportage signé Cyril Ardo.
Tout est fait pour que les enfants soient le plus détendus possible. Bonnet de Père Noël sur la tête des infirmières et chansons de Disney dans les haut-parleurs. Une centaine d'enfants est testée chaque matin, comme Thiago, 8 ans, cas contact d'un de ses copains du club de foot. Il est venu avec sa maman, Carla.
Depuis l'année dernière, ça devient la quatrième fois qu'il avait eu un test PCR dans le nez. Et là, je me suis dit, non, là, il faut vraiment arrêter parce que bon, ça lui monte tout de suite les larmes aux yeux. Il aime pas trop.
Après quelques minutes d'attente, c'est le moment de faire le test.
Tu vas le garder sous la langue pendant une minute. Ouvre la bouche.
Oh non.
C'est sous la langue, chérie, ça fait pas mal.
Véronique Aveline est infirmière.
C'est exactement le même écouvillant que celui qu'on utilise pour les tests nasopharyngés. Donc effectivement, les enfants sont un peu réticents. Parce que quand on voit, on dit « oh là, elle va encore me rouler, elle me dit que c'est dans la bouche, mais est-ce qu'elle va pas passer dans le nez ?»
Et au bout de 60 secondes, l'alarme sonne.
Et ben voilà, tu peux choisir un bonbon.
C'est bon, Thiago est libéré.
Pas mal.
Même pas mal, les pleurs sont d'ailleurs très rares ici. Les résultats, eux, tomberont dans la soirée et ils sont très fiables car les tests salivaires sont en fait des tests PCR, quasiment aussi efficaces que ceux dans le nez et bien plus que les autotests ou les antigéniques.
Un reportage France Bleu signé Cyril Ardo.
Et toujours pas d'accord des parlementaires sur le pass vaccinal.
Le texte était discuté, débattu en commission mixte paritaire cet après-midi. 7 députés, 7 sénateurs qui devaient trouver un compromis sur un texte dont l'examen décidément est un vrai feuilleton. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
La bataille continue donc et plus fort que jamais.
Et tout ce qui a, et ce qui a tout fait capoter, pardon Hélène, tenez-vous bien, c'est un tweet. Il est 18h, la réunion dure depuis 4h. On est à un cheveu, vraiment un cheveu d'un accord. La majorité a fait des concessions au Sénat. Et là, Bruno Retailleau, le patron de la droite sénatoriale, se félicite sur les réseaux sociaux. C'est une victoire du Sénat, sauf qu'il se précipite un peu. La commission n'est pas officiellement terminée. Fureur de Christophe Castaner et des troupes macronistes qui dénoncent une odieuse récupération politique, une atteinte gravissime à nos institutions. Je les cite, et tout est annulé.
Alors maintenant, à quoi il va ressembler ce texte? C'est un peu la question qu'on se pose.
Eh bien, il va ressembler à la version votée initialement par les députés.
La première.
Les sénateurs l'avaient largement modifié cette version en supprimant notamment le pass vaccinal pour les mineurs ou en ajoutant l'extinction automatique du pass sous le seuil des 10 000 hospitalisations. Eh bien, on oublie tout ça. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot ce week-end et le pass entrera en vigueur avec encore un peu plus de retard, peut-être en fin de semaine prochaine. En attendant, la droite va devoir revoter au risque d'afficher à nouveau ses divisions. Aubaine pour les macronistes trop heureux de jouer le camp de la responsabilité. Ou quand la campagne présidentielle occulte complètement la gestion sanitaire.
Simon Le Baron pour le récit de ce nouveau rebondissement. Côté chiffres, 225 personnes sont mortes du Covid ces dernières 24 heures. On en est encore à plus de 20 000 personnes hospitalisées, avec une moyenne de 3 000 arrivées à l'hôpital chaque jour. On n'a pas atteint le pic. Et les scientifiques le répètent, le comportement de chacun peut avoir un impact. Explication Véronique Julia. Au-delà de la vaccination qui protège des formes graves, la sévérité d'Omicron par rapport à Delta est maintenant relativement bien établie. Les études convergent. Omicron conduirait 2 à 3 fois moins que Delta à l'hôpital. Et si on se retrouve malgré tout hospitalisé, le risque d'être envoyé en soins intensifs serait encore réduit de plus de moitié. Sur ces bases, et sachant qu'Omicron est plus transmissible, l'Institut Pasteur a donc élaboré plusieurs scénarios plus ou moins pessimistes qui projettent jusqu'à 5 et même 7 000 nouvelles hospitalisations par jour au pic de l'épidémie. Mais ce qui est très net dans ces modélisations, c'est la puissance de nos comportements. En réduisant nos contacts de 20%, on réduirait en effet ces hospitalisations quotidiennes de moitié. Pour l'infectiologue Arnaud Fontanet, ça vaut le coup de faire encore attention quelques semaines.
Cette réduction de 20%, c'est absolument considérable. C'est essentiel dans la période actuelle. Ça peut encore être utile. C'est pas derrière nous. Et ça peut protéger les hôpitaux parce que qu'on parle des admissions quotidiennes ou qu'on parle du nombre de lits occupés en hospitalisation conventionnelle, on arrive à la fin du mois à des niveaux qui seront probablement proches de ceux des vagues dures de 2020.
Pour limiter la pression hospitalière, la réduction des contacts sera donc déterminante, la durée des séjours aussi. Omicron étant moins sévère, ces durées pourraient rester limitées à 3 ou 4 jours, au lieu de 6 à 8 jours avec Delta, ce qui pourrait réduire là encore de plusieurs milliers le nombre de lits Covid nécessaires au pic de l'épidémie.
Véronique Julia, et aux États-Unis, Joe Biden annonce ce soir qu'il double à 1 milliard le nombre de tests qui seront distribués gratuitement aux Américains.
Emmanuel Macron s'indigne de la réincarcération de Farida Abdelra en Iran.
La chercheuse franco-iranienne était en résidence surveillée depuis un an, condamnée pour atteinte à la sécurité nationale. Un retour derrière les barreaux que le chef de l'État considère comme totalement arbitraire.
Nous nous sommes battus pendant de longs mois pour sa libération, l'obtention de conditions plus acceptables, et les autorités iraniennes ont décidé à nouveau de l'incarcérer. Cette incarcération ne repose sur absolument aucun élément. Il s'agit bien d'une prisonnière scientifique. Son emprisonnement est totalement arbitraire. Je sais que ses proches, ses collègues et au-delà, le monde universitaire se mobilise déjà. La France tout entière est mobilisée pour obtenir sa libération. C'est le signe de ce que la recherche libre représente comme menace quand l'obscurantisme se répand. Et je voulais vous dire que nous sommes pleinement mobilisés à ses côtés, aux côtés de ses proches, et de tous les scientifiques.
Les mots d'Emmanuel Macron au début d'un discours devant les présidents d'université cet après-midi à Paris. Les proches de la chercheuse étaient rassemblés également dans la capitale. C'est une première dans le monde et ça se passe en Allemagne. Un tribunal vient de condamner un ancien colonel des services de renseignement syriens pour des crimes contre l'humanité commis en 2011 et 2012 par le régime de Bachar al-Assad. La justice allemande s'est saisie de cette enquête au nom du principe de compétence universelle. Elle le reconnaît coupable du meurtre de 27 prisonniers et d'actes de torture sur au moins 4000 détenus. La garde à vue de l'homme entendue depuis hier dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline a donc été levée ce soir. 35 heures d'audition sur le mystère qui entoure ce drame depuis plus de 9 ans. Un cycliste et 3 Britanniques abattus sur le parking du route forestière de Haute-Savoie. 2 petites filles miraculées. Garde à vue levée donc et aucune charge retenue contre l'homme, Ariane Grissel.
Cet homme est un motard qui a été aperçu non loin du lieu des faits le jour du meurtre. Entendu 3 ans plus tard comme simple témoin, il avait déjà été mis hors de cause après avoir expliqué être venu dans la région ce 5 septembre 2012 pour faire du parapente. À l'automne dernier, ce même homme a participé à la reconstitution menée dans le cadre de cette enquête. Son placement en garde à vue hier matin visait à vérifier son emploi du temps au moment du quadruple homicide. Son domicile a également été perquisitionné sans qu'aucun élément suspect ne soit donc trouvé. Les explications données et les vérifications opérées ont permis d'écarter son éventuelle participation aux faits, précise ce soir dans un communiqué le parquet d'Annecy. Il s'agissait donc de refermer une porte dans cette affaire qui a déjà donné lieu à des milliers d'heures d'enquête et d'audition et qui reste une énigme. Les investigations continuent. 10 ans après les faits, 3 enquêteurs de la section de recherche de Chambéry se consacrent encore à temps plein à ce dossier.
Et puis en bref, le non-lieu requis par le parquet pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, visé par la plainte d'une sympathisante UMP pour des faits qui remontent à 2009. La juge d'instruction doit désormais se prononcer. Le RSA ne tient pas ses promesses. 2 millions de personnes ont droit à ce revenu de solidarité active créé en 2008 pour remplacer le RMI. C'est l'un des principaux instruments de lutte contre la pauvreté. Pour quelle efficacité ? La Cour des comptes s'est penchée sur la question et son constat n'est pas tendre, Claire Chaudière.
premier constat, si le RSA atteint bien l'un de ses objectifs principaux, celui d'empêcher ses bénéficiaires de tomber dans la pauvreté extrême, il continue de rater une partie de sa cible. 30% des personnes qui y ont droit ne demandent pas leurs 565 euros, note la Cour des comptes. Grâce à un système d'automatisation relié aux données en temps réel, on pourrait notifier directement aux personnes éligibles leurs droits. Il faut l'expérimenter, estiment les sages, mais pas forcément automatiser le versement du RSA lui-même. Autre urgence, garantir et renforcer l'accompagnement des bénéficiaires pour leur permettre de retrouver un emploi. C'est la grosse défaillance du système. 40% des allocataires n'ont aucun contrat d'accompagnement, ce qui est pourtant obligatoire. Il faut, dit la Cour des comptes, sanctionner les organismes comme les allocataires lorsqu'ils ne respectent pas leurs engagements. Enfin, le rapport préconise de réformer le financement du RSA, permettre aux départements de disposer de ressources durables pour assurer cette mission, tout en jugeant qu'une recentralisation générale n'est pas souhaitable.
La Cour des comptes qui ne se prononce pas en revanche sur le projet de revenu d'universel d'activité voulu par l'exécutif. Ça ne passe pas au Sénat, le port obligatoire du casque à vélo. Le centriste François Bonneau a finalement retiré sa proposition parce que la mesure est plus réglementaire que du domaine de la loi. Et côte campagne, encore à 87 jours de la présidentielle, il faut casser son image, parler à tout le monde. C'est ce que Valérie Pécresse est allée faire dans le Doubs aujourd'hui, après la sécurité, l'agriculture. Reportage à Villers-le-Lac, Anne Souhaitement.
Accueilli au son du cor des Alpes, dans une ferme qui produit du comté.
Qu'est-ce qui nous joue du cor ?
Mon mari.
Valérie Pécresse a chaussé aujourd'hui ses bottes de candidate du monde agricole, façon Chirac.
Dans le Doubs, on traite les vaches comme voilà. Des membres de la famille.
Mais derrière les belles images, la dégustation de morbier, recette miracle pour gagner les élections.
Eh ben, on va aller directement vers le plateau de fromage.
Valérie Pécresse vient avant tout rassurer les agriculteurs, un électorat historiquement ancré à droite.
L'agribashing est aussi injuste qu'infondé. À tous ceux qui agressent les agriculteurs, verbalement, parfois physiquement, je serai intraitable. Je bâcherai l'agribashing et je restaurerai l'agri-fierté.
Suppression de la taxation des plus-values sur les cessions à de jeunes agriculteurs, baisse des charges de production, réexamen de toutes les normes, Valérie Pécresse multiplie les promesses.
Je me suis engagée à réformer les retraites pour qu'à l'issue, les Français qui ont cotisé toute leur vie, qui ont eu des carrières longues, ne touchent pas moins du SMIC net mensuel. Et ça vaudra pour nos agriculteurs.
Valérie Pécresse sévère avec le bilan d'Emmanuel Macron, beaucoup de communication, mais pas de transformation du monde agricole, attaque-t-elle. Et la candidate continuera à jouer la confrontation avec le président. La semaine prochaine, elle multipliera les déplacements de terrain quand le chef de l'État parlera Europe.
Et puis Christian Jacob saisit la CNIL après une lettre de Guillaume Pelletier aux adhérents LR. L'ancien numéro 2 des Républicains s'est rallié ce week-end à Éric Zemmour et il a envoyé un mail aux adhérents de son ex-parti les appelant à le rejoindre. Le président de LR dénonce une utilisation frauduleuse des fichiers. Le sport, c'est ce soir le début de l'Euro de handball en Hongrie. L'équipe de France affronte la Croatie, vice-champion d'Europe en titre, dans une heure. Jean-Pierre Blimaud, vous êtes à Szeged, là où les tricolores arrivent 5 mois après leur titre olympique à Tokyo, mais après une perturbation, un entraînement assez perturbé.
Oui, en temps normal, Hélène, cette équipe de France ferait figure d'épouvantail pour ses adversaires. Après le 3e titre olympique à Tokyo, avec en plus dans ses rangs de nombreux joueurs multimédaillés, il y a 10 joueurs dans l'effectif qui ont d'ailleurs gagné leur médaille d'or cet été lors des Jeux Olympiques. Et parmi eux, Nicolas Karabatic, toujours désireux d'aider l'équipe de France à plus de 37 ans. Mais cette fois, l'équipe de France n'emmène pas large, après une préparation fortement perturbée, pas seulement à cause de la pandémie qui a touché pas moins de 6 joueurs pendant les fêtes. Il y a eu aussi un drame familial, malheureusement, vécu par le principal gardien de but, Vincent Gérard, qui a réintégré le groupe. Et puis, cette incroyable agression au couteau la nuit de la Saint-Sylvestre qui aurait pu coûter la vie à Elohim Prandi, forfait, lui, pour 7 euros. Mais les Français ont de la ressource et le staff n'a pas chômé pour tenter de mettre sur pied une équipe de France compétitive. Valentin Porte, le nouveau capitaine, disait pas plus tard qu'hier soir qu'il y croyait malgré ces circonstances. Et le match de ce soir face à la Croatie, vous l'avez dit, vice-championne d'Europe, sera un premier test important.
Un match que vous allez suivre pour nous. Merci Jean-Pierre Blimaud en direct de Szeged en Hongrie. Le coup d'envoi, c'est dans moins d'une heure.
Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup. Hélène Philippe, bien sûr, à demain.